en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, aujourd'hui en coloc retransmet l'intervention de l'historien et académicien des sciences morales et politiques Emmanuel Leroy-Ladurie lors d'une conférence donnée à la Fondation Saint-Gerre-Polignac à Paris sur le thème du climat et des tempêtes. Emmanuel Leroy-Ladurie s'est intéressé à la météo des quelques années précédant la Révolution française. Car on connaît naturellement les raisons politiques de ce moment de l'histoire, mais on oublie le rôle d'accélérateur qu'ont pu jouer les conditions climatiques. En effet, les années précédant l'année 1789, la météo n'est pas propice à de bonnes récoltes et chacun sait que des ventres vides s'échauffent beaucoup plus vite que des ventres pleins. C'est sous cet angle qu'Emmanuel Leroy-Ladurie nous livre un pan de la Révolution française. Je vous propose de l'écouter sans plus tarder.
Climat et Révolution française. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une monocausalité météo de la Révolution française, ce serait grotesque. Il s'agit d'étudier cependant non pas le texte, comme dans le jargon actuel, de la Révolution, mais son contexte écologico-climatique, qui n'est qu'un contexte parmi bien d'autres, en fonction des portes ouvertes, contexte culturel, politique, économique, démographique, les travaux de Furet, même de Soboul, enfin, je prononce des noms antagonistes, mais ils existent tous les deux. Mais, et si je viens à parler de démographie et d'économie, ce sera dans la mesure où l'une et l'autre sont influencées par la météo, par les récoltes, et sont influencés négativement. L'an 1788, les grandes difficultés, je veux dire, au point de vue naturel, écologique, ce n'est pas un jugement négatif sur la Révolution, pas du tout, la vraie crise de mauvaise conjoncture. Beaucoup plus, et croyez bien, je respecte le souvenir d'Ernest Labrousse, mais sur un point précis, je ne suis pas d'accord avec lui, beaucoup plus que la soi-disant crise de 10 ans de Labrousse, de 1778 à 88, qui, à mon avis, je ne peux pas argumenter ici, n'a jamais existé avant la Révolution. Le vrai problème éco-météo, c'est la récolte de 1788, elle-même éprouvée par la météo. Donc, vous avez les deux minima des récoltes. D'après la statistique centrale de la France, un état du citoyen Guillaume au début de la Révolution, mais d'après les états des récoltes, les deux mauvais moments, c'est 1774, l'indice 7, et cette mauvaise récolte qui va donner la guerre des farines au printemps 1775, et 1788, l'indice 7 également. Je crois que ce graphique est suffisamment éloquent, et entre les deux, mon Dieu, ça n'allait pas si mal, même s'il y avait des hauts et des bas. Donc, l'indice 7, Labrousse a connu cette statistique. Il l'a un peu utilisée, mais je crois qu'on pourrait développer la question. 1774, année matricielle de la guerre des farines au printemps 75, émeute de subsistance en chaîne, puisque, je vous le rappelle, c'est toujours le printemps de l'année suivante, 1775-1789, qui connote négativement, après coup, la mauvaise récolte d'une certaine année. C'est le temps des cerises, qui est quelquefois le temps, sinon de la faim, car à mon avis, ce ne sont plus des famines, mais le temps de la cherté, le temps où les gens sont dans la rue, j'allais dire le temps Juppé, mais enfin, c'est pas des choses, vous voyez, le moment où le gouvernement passe un mauvais quart d'heure. Le temps que les stocks de blé s'épuisent tout à fait, depuis l'été-automne de la mauvaise récolte, 88, jusqu'au printemps, 89. Et au-delà, en ce qui concerne 88-89, cherté des grains, depuis août 88 à juillet 89, ipso facto viennent les émeutes de subsistance déclenchées dès la fin de l'été 88 et pour cause. Elles culminent, comme chacun sait, à la veille de la moisson de 89, enfin salvatrice en première quinzaine de juillet de l'année radieuse 89, culminant même le 14 juillet 89, dont la veille, le 13 juillet, fut marquée par deux grosses émeutes de subsistance parisienne typiques. Comme disait un vieux professeur que j'ai eu au lycée, son cours sur le 14 juillet, grand A, le 13 juillet. Parce qu'effectivement, le 13 juillet, il y a des émeutes de subsistance importantes à Paris. Il y aura encore des répliques, comme on dit pour les tremblements de terre, nullement insignifiantes, celles d'octobre 89, lors des journées d'octobre, les femmes allant quérir à Versailles le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est clair, mais les récoltes convenables de 1789 et surtout de 1790 vont calmer le jeu, mais qui va reprendre d'une autre façon, et ce sera le jeu politique révolutionnaire qui est tout à fait hors de mon sujet à ce moment-là. Que s'est-il passé ? Comment est-on arrivé au point d'incandescence marqué au début par la mauvaise récolte de 1788 ? Le côté politique des choses est presque parfaitement connu grâce aux travaux de Georges Lefebvre, Albert Soboul, François Furet, Mona Ozouf et tant d'autres. Mais l'aspect météo, récolte. Tout le monde connaît à ce propos l'épisode fameux de la grêle du 13 juillet 88, destructrice des moissons. Mais enfin, cette averse des gros grêlons du 13 juillet 88 n'a concerné que, alors je me mélange toujours, je crois que c'est 1034 ou 1039, faut que je vérifie, sur les 37 000 villages ou paroisses qu'on dénombre dans l'Hexagone. Il faut donc chercher plus loin. Puisqu'aussi bien, la demi-disette, qui n'est pas une famine, 88-89, et la mauvaise récolte ont affecté non pas 1039 villages, mais une très large majorité des 37 000 villages et villes en question dans toutes les régions françaises. On doit, par-delà les malheurs incontestables d'un certain jour de grêle, entrer dans le détail d'ensemble de l'entière année, l'année pré-récolte, 87-88, et l'année post-récolte, 88-89. Thick description, comme dit l'anthropologue américain Clifford Geertz. On rappellera que la médiocre moisson 88 n'est pas un désastre absolu, comme ce fut le cas lors de la famine de 1693-94, 1 300 000 morts supplémentaires sur 20 millions de Français. Tués par le déficit frumentaire, mais surtout par les épidémies corrélatives, collatérales comme on dit maintenant, en vertu d'un prélèvement sur les 20 millions d'habitants de la France, ce qui faisait une mortalité de 6,5% de la population française. C'est pas la peste noire qui est bien pire. Par contre, en 1788-89, et le fait n'est pas assez noté, les pertes humaines mortelles dues à la disette sont nulles, ou presque nulles, ce qui est une façon de rendre hommage à l'immense progrès économico-commerciaux agricoles enregistré entre 1693 et 1788. Outre que la causalité n'est pas la même, puisque la causalité de la mauvaise récolte de 1692, c'est un peu l'échaudage des blés qui est là comme une cerise sur le gâteau, mais surtout d'énormes pluies depuis l'automne 92, c'est l'arrivée des dépressions atlantiques, puisque nous avons trois causalités des famines. L'anticyclone sibérien, je ne sais pas si les météorologistes disent encore anticyclone sibérien, enfin c'est le vieux terme, l'anticyclone des Açores quand c'est trop chaud et trop sec, et enfin les dépressions atlantiques quand le rail dérive vers le sud et touche tout à fait l'Hexagone. La principale raison de l'absence des morts en 88-89, c'est l'énorme amélioration de l'économie française. Et il faut être, monsieur Morino, je ne veux pas être méchant, pour parler de stagnation agricole au XVIIIe siècle, comme il faudra être un de nos hommes politiques pour évoquer la paupérisation française au cours des années 1940-50. Donc, pas ou peu de morts d'hommes et de femmes en 1788-89. Pourtant, certaines conséquences démographiques. On dénombre à l'échelle française 10 000 mariages en moins en 88 et 24 000 en moins pour 89. Il y a aussi un déficit de 10 000, ça dépend comment on compte, ou 30 000 naissances, selon la base de comparaison. Le déficit, le manque des grains, la cherté a eu un impact psychologique. Mariage différé par crainte d'un avenir, je pense pas par crainte de la révolution qui arrive, mais par crainte d'un avenir économique, c'est souvent ce qui se passe dans ces périodes. Et puis, restriction des naissances, je crois que les gens en étaient déjà capables, recours éventuel au coitus interruptus, ou peut-être affaiblissement chez certaines femmes des classes les plus pauvres, l'aménorrhée de famine, etc. C'est possible. Donc, il y a peut-être joie pré-révolutionnaire, l'année radieuse 1789, je ne le nie pas, mais joie complexe, puisqu'il y a quand même un élément négatif et causal, la grosse cherté du panifiable. Mais enfin, le fait que l'impact mortalitaire est nul est tout de même très frappant. On avait connu bien pire en 1693, en 1709, 600 000 morts supplémentaires, en 1740, en 1770, où je n'ai pas les chiffres exacts sous les yeux, je les connais, c'est de l'ordre de, selon le cas, 100 000 ou 200 000 morts en plus. Mais on voit que ça baisse progressivement au 18e. Quant au déficit réel de la récolte de 1788, la récolte des grains, de froment, déficit tellement lourd de conséquences, éventuellement glorieuse, la Révolution, ce déficit a dû se situer entre 20 et 30% par rapport à la récolte normale. d'après une comparaison avec le déficit de 1846 qu'on connaît bien. Cela suffit pour détraquer momentanément toute la machine subsistentielle, de quoi faire bondir les prix du blé beaucoup plus haut que proportionnellement, peut-être doublé, enfin j'aurais dû le noter, de quoi provoquer dans la rue les troubles dus à l'exigence populaire de taxation plébéienne du panifiable. Les gens sont dans la rue non pas qu'ils meurent de faim, mais parce qu'ils ne... Enfin, bon, ils ont un problème alimentaire, mais parce que c'est trop cher, ils ne sont pas contents, c'est une réaction assez moderne. Et c'est vrai de la France, c'est vrai aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique, à la même époque, 88-89. Que s'est-il passé en termes météorologiques, 87-88, en tant qu'année pré-récolte, déterminante pour le volume de la récolte et pour l'année post-récolte, 88-89? Que s'est-il passé pour expliquer le déficit des grains français et belges, enfin en 88? Évoquons d'abord les grosses pluies d'octobre, là c'est peut-être effectivement les dépressions qui passent plus au sud, d'octobre-novembre 87, signalées par les sieurs Leleu et par Abbot de Bazergem, l'agriculteur du nord de la France, et par le pluviomètre. Les sieurs Leleu, grand marchand de blé parisien, furent cités à ce propos par Gustave Bohr en 1887, par moi-même en 1978. Les pluies d'octobre et novembre 87 se sont opposées en partie aux emblavures, d'où il résulte que beaucoup de terres n'ont pas été ensemencées, écrivent les Leleu le 14 août 88. On prend conscience que la récolte 88 va être médiocre. Dans une lettre à Necker, les données pluviométriques des régions de Paris, Montdidier, Montmorency, collectées par Renoux et Rollin, confirment pleinement le caractère superaquatique de la météo d'octobre-novembre 87 et de l'automne 87 en général. Du coup, les façons des labours d'automne, préparatoires aux semailles, les semailles elles-mêmes sont perturbées, les sabots des chevaux s'enfoncent dans la boue, vous voyez les gens. On a connu cette situation déjà à l'automne de 1692, qui fut déterminant pour la famine, terrible famine, de 1693. Mauvais point donc, dès la fin de 1787, pour la moisson 88 à venir. S'agissant des saisons 88 proprement dites, le chroniqueur villageois naïf de Varède en Seine-et-Marne décrit la chose en style un peu difficile mais précis. « Il n'a point fait d'hiver », écrit ce villageois. Or, on sait que l'hiver doux, encourageant les mauvaises herbes et les bestioles parasites, peut s'avérer défavorable au blé qui est déjà semé. Ça a pu se produire. Effectivement, l'hiver 87-88, d'après les chiffres de Renoux, est à 5 degrés centigrades, décembre, janvier, février, contre 3,4 degrés en 86-87 et 0,1 pour 88-89, grand hiver sibérien dont tous les historiens nous parlent, alors que quand ce grand hiver 88-89 a lieu, les carottes sont cuites depuis 88. Mais ce grand hiver n'a pas, enfin, il a son importance, mais il joue très peu de rôle dans la hausse des prix. Passé l'hiver doux de 87-88, le chroniqueur de Varède évoque un printemps 88 qui fut défavorable aux biens de la terre et aux seigles eux-mêmes affaiblis. Varède, appelons-le pour simplifier, mais aussi Abbot de Bazergem, propriétaire agriculteur de la région de Boulogne. Il écrit « Toute la fin d'avril 88 et la première quinzaine de mai furent très sèches. Les herbes ne poussaient pas. Les blés qui s'étaient maintenus de toute beauté pendant l'hiver jaunissaient, diminuaient. Les blés de mars ne levaient pas, quand enfin, pluie abondante de deux jours désaltère un peu la terre. Mais les blés ont souffert dans le Boulonnais, car la pluie fut peu considérable. » La suite des notations de Bazergem vire au pessimisme. Aujourd'hui, 24 mai 88, sécheresse recommence à se faire sentir. Continuera cette sécheresse jusqu'à la mi-juin. C'est l'épisode de sécheresse échaudage, car les historiens notent la sécheresse, mais pas l'échaudage, le coup de chaleur, qui agit sur les grains encore humides, le grain encore presque liquide, dont parle Varèdem. C'est l'intervention de l'anticyclone des Açores, chaud, sec, personnage central de l'année 88, comme Calonne, Necker ou Louis XVI. Et comme nous l'avons connu, cet anticyclone aussi, en 2003. L'échaudage sécheresse, grillage du blé vers juin 48, ce sont les deux facteurs essentiels à ce moment précis. L'homme de Varède confirme expressément la notion d'échaudage. La trop grande chaleur de mai-juin, et c'est un paysan, un villageois, a fait échauder, il emploie le terme, les blés, de sorte que la récolte des grains a été petite. Il ne rendait guère de gerbe ni de minot, c'est-à-dire de volume des grains. Alors, l'anticyclone des Açores, dès qu'il y a suffisamment de pluie, ça n'est pas gênant. Mais enfin, il peut être désastreux, comme il l'a été, enfin en tout cas très gênant, en 1788, en 1811, en 1846. Et là, nous ne sommes pas là pour parler de la révolution de 48, mais il y aurait des choses à dire. Le blé est venu jadis, il y a 5000 ans, du Moyen-Orient. Il aime bien la chaleur estivale, mais il lui faut quand même un minimum de pluie, sinon il y a risque d'échaudage sécheresse. Et l'homme de Varède a bien noté le doublé, chaleur-sécheresse, alors que les historiens parlent avec raison de la sécheresse, mais oublient le coup de chaleur. L'an 88 est certainement anticyclonique, assyrien. Nous avons parlé de l'hiver doux, mais c'est l'année en bloc 1788, la plus chaude connue, entre 1780 et 1793. 1779 avait été très chaud, avec une forte dysenterie, due à la chaleur, enfin, on n'a pas le temps d'en parler. Et puis, mai 1779 avait été arrosé convenablement. 1794, dont nous reparlerons aussi si on a le temps. À Paris, comme à Berne, d'après Pfister, 1788, c'est l'année sur 12 mois, sauf décembre 88, la plus chaude de 1782 à 1797 à Berne. Chaleur et précocité. La moisson 1788 dans la région de Berne prend place avec 13 jours d'avance sur celle de 1787 et 6 jours d'avance sur la date moyenne des moissons bernoises de 1560 à 1825. Toujours Pfister. Oui, décidément, chaud, bien chaud l'année 1788. Et, encore une fois, la sécheresse, on l'a vu, la chaleur, pas forcément. Qui plus est, cette hyper chaleur d'une année entière 88, sauf décembre 88 qui est très froid, le grand hiver, se concentre pour le plus important sur les 5 mois de printemps-été d'avril à août, d'après Renaud. Les courbes que j'ai publiées d'après Vic d'Azir en 1972 confirment ce point. À Quévelaer, dans le nord-ouest rhénan de l'actuel RFA, chaud sur les mois de décembre 87, janvier 88 et surtout avril à octobre 88. Semblablement, en Angleterre centrale, d'après Manley, le printemps 88 est le plus tiède au fil des 12 années 82 à 93. L'été 88 est le plus chaud des 10 années 84-93. Ce n'est pas phénoménal, c'est tout de même caractéristique. Et il est facile qu'un épisode d'échaudage s'intercale là-dedans. Ajoutons que les dates de vendange, c'est un peu ma manie, très précoce en 1788, au fil d'un siècle de vendanges systématiquement tardives pour des raisons elles-mêmes anthropiques, on n'avait pas de sucre à mettre dans le jus, alors il fallait le laisser mûrir, que ces vendanges précoces nord et midi confirment cette chaleur. Vendange le 17 septembre, une précocité qu'on ne retrouvera guère de 1782 à 1862, on la retrouvera qu'en 1794, 1811, l'année du vin de la comète, et 1846. Quant au midi viticole de la France, il est à l'avenant avec 13 vendanges précoces pour 13 sites connus en 1788 également. Cette maturité brûlante nord-sud 1788 est capitale, puisqu'elle sous-tend le caractère national, lui aussi, de la disette, pas du tout de la famine, à base d'échaudage dans cette année 1788, incidemment pré-révolutionnaire. La chaleur n'est pas forcément synonyme de sécheresse, elle l'est néanmoins en mai et juillet 1788 pour le petit nombre des jours de pluie, ainsi qu'en avril et mai 88 en termes de millimètres de précipitation. Alors on se méfie toujours des pluviomètres parce qu'ils étaient dans les cours des casernes, vous voyez ce que les soldats faisaient avec les pluviomètres, enfin. Bon, soit 43 mm de pluie à Montdidier en ces deux mois, contre 124 mm aux mêmes mensualités en 1787 et 105 mm en 1789. L'éminent météorologiste De Villers a étendu cela à l'ensemble du territoire français, mais dans la météorologie, le journal de la météorologie, il n'a pas donné les références, malheureusement. La moitié nord de la France a souffert beaucoup de la sécheresse du printemps-été 88, mais le sud également. Voyez l'étude de M. et Mme Fraîche, les récoltes du diocèse de Toulouse pour le froment, le métail, le seigle, l'avoine, l'orge, les foins, le fourrage et la paille. Récolte désastreuse. Bon, il y a une exagération méridionale, mais enfin, il n'y a pas doute que c'est une mauvaise année en 1788. De même en Provence, d'après l'éminent historien du climat devant lequel je m'incline, ce que n'a pas fait l'université, M. Pichard, Toutes les données indiquent des rendements provençaux moins élevés en 88 qu'en 89. La deuxième année 89, pourtant, n'est pas extraordinaire, mais enfin, elle est meilleure que 88. On ne s'étonnera pas de la hausse des prix dans le Nord et le Midi, de l'importation des céréales dans le Comtat-Venaissin pour boucher le trou, d'une flambée d'émeutes de subsistance méridionale aussi, d'après Jean-Nicolas, dans l'année post-récolte 88-89, embrasant le Languedoc, si on peut dire, avec 15 rébellions et surtout la Provence, 52 agitations diverses. L'acmé de celle-ci se situe en des révoltes en mars 89, mois typique du déficit des grains plusieurs saisons, plusieurs mois après la récolte. Bien entendu, on ne va pas parler de révolte de la faim. D'abord, la Méditerranée permet d'amener du ravitaillement. Mais ce que cherchent les populations émues, c'est la taxation populaire, taxation des prix, en vue de les sous-plafonner assez bas pour contrer la désagréable cherté des aliments. Quant aux facteurs décisifs de cette conjoncture trublionne sudiste, ils tiennent à la néoculture, on tourne vers mon voisin, urbaine et contestataire, celle du XVIIIe siècle, et côté climat, l'occurrence d'un printemps-été méridional, tout comme septentrional, très ardent et chaudeur, avec sécheresse printanière et corrélative à partir d'avril 88, vendanges et maigres moissons très précoces les unes et les autres dans tout l'Hexagone. Cela dit, la notion d'échaudage-sécheresse n'épuise pas tout le contenu climatique de la difficile année pré-récolte des récoltes 88. Revenons à Abo de Bazinghem, dans le département, disons, du Nord. Il mentionne que survient à partir du 15 juin un vent très violent pendant 8 jours jusqu'au 23 juin, et ce vent, à son tour post-23 juin, est succédé par des pluies et des orages, tels qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Bon, ça c'est ce qu'on dit toujours. Passons sur l'exagération, mais le fait est là. Les orages se calmèrent, mais les pluies continuèrent. Texte écrit avant le 20 juillet 88. On est encore dans le chaud, mais on n'est plus dans le sec. Et les récoltes qui avaient souffert de ce sec se sont maintenant malheureuses à cause du trop de vent, de pluie, d'orage et un peu plus au sud, du département du Nord, les grêles. Alors, météorologiquement, les fronts froids qui arrivent sur l'anticyclone des Açores, là je dis des bêtises et il faudrait un météorologiste professionnel, s'il y en a un ici, pour nous expliquer la chose. Le 20 juillet 88, Bazinghem note qu'on a beaucoup de peine à recueillir les foins à cause de la pluie persistante. Pour les céréales, un certain espoir demeure, mais déjà on a ordonné des prières pour le beau temps à cause de la pluie qui s'est installée. Au terme d'une série de contrastes, douche automnale 1787, nuisible au semail, sauna sec et chaud du printemps 88, suivi malgré ou à cause de la chaleur ambiante par de nouvelles douches estivales, c'est le sauna humide peut-être, si vous avez fréquenté ces établissements, sous forme d'orages, grand vent et pluie estivale, post 15 et 23 juin 88, donc un complexe 87-88, douche, sauna, douche. Mais on garde quand même l'espérance, puisque la grêle du 13 juillet n'a frappé qu'une faible minorité des villages français. C'est surtout l'Île-de-France, Madame Vazac a donné une carte, qui est touchée, et un peu le Nord qui est touché par cette grêle. Mais Bazinghem, quelques semaines plus tard, devient tout à fait pessimiste. Moisson, tout l'été, dit-il en septembre, avait été très pluvieux. C'est donc la fin de la sécheresse. On eut beaucoup de mal à avoir des grains secs. Et là, j'ai une expérience familiale. Je suis normand et je revois tous les étés chez mes parents, c'était la même chose. Les gerbes, les trésiaux, les 13 gerbes étaient la 13e par-dessus pour la dîme. On l'avait laissé, bien qu'il n'y ait plus de dîme. Et il pleuvait là-dessus, le grain germait, et c'est comme ça que mon malheureux père a fini par se ruiner. Donc, c'est une chose qui m'est restée. Il y avait assez de gerbes, le grain était germé, elle ne rendait pas peu de grains en général. Les orages de l'été, c'est Bazinghem, qui avait dévasté beaucoup de pays au blé, de provinces céréalières, en firent hausser le prix. C'est l'initiale annonce de la cherté du grain, politiquement fatale de fin 88 et première moitié 89. Été 88 orageux et pluvieux, mais été précoce car chaud. Faut-il parler d'orage de chaleur, né d'une dialectique que les météorologistes pourraient beaucoup mieux expliquer que moi et qu'ils connaissent bien, peut-être l'anticyclone des Açores et l'arrivée ultérieure de front froid. Même remarque pour la grêle du 13 juillet. La phrase suivante de Abo de Bazinghem dénonce le complexe paradoxal précocité et aquosité. Il y eut, dit-il, une quantité considérable de fruits sur les arbres, mais très précoce, mais beaucoup d'eau dans ces fruits. voyez, le mélange de chaleur et d'humidité. Le bilan des céréales, en tout cas, est négatif. Restons-en donc à ce modèle, douche froide d'hiver, sauna de fin de printemps et de début d'été, douche tiède juin, juillet, août. On se croirait revenu à la mauvaise année 1774, elle aussi chaude et humide, matriciale de la guerre des farines du printemps 75. L'année pré-récolte 1788 est un peu à l'image de ces années nord-européennes ou nord-françaises qu'on nous promet vers la fin du XXIe siècle, si l'on est climatiquement correct, avec excès de chaud et excès de pluie tout à la fois sur les régions septentrionales de la France, pour ne pas parler du Benelux et même de la Scandinavie. Mais quant à 88-89, de là à engendrer une révolution, et évidemment, il y a bien autre chose que le climat. Disons que le climat a fourni l'humus et que l'arbre de la révolution, qui ne se confond pas entièrement avec l'arbre de la liberté, s'est développé par là-dessus avec son ADN propre qui n'a, lui, rien de météo. Restons-en à 1788. Outre le blé, le vin. Vendange 88 précoce, mais aussi grâce à l'ensoleillement très intense et à des pluies suffisantes, un vin excellent de qualité, notamment dans les vignobles des marges du Nord-Est, ceux d'Alsace et du pays de Bade.
On marque une courte pause avant de retrouver l'académicien et historien Emmanuel Leroy-Ladurie sur le sujet du climat pendant la période de la Révolution française. A tout de suite.
L'architecte Paul Andreu, membre de l'Académie des Beaux-Arts, revient sur la construction de l'Opéra de Pékin, inauguré en 2007. De l'idée au dessin, du dessin à la mise en œuvre, Paul Andreu témoignage sur une architecture en résonance. Une émission Carrefour des Arts à télécharger librement sur Canal Académie.
Retour à notre conférence consacrée à la climatologie et l'histoire. Emmanuel Leroy-Ladurie, historien moderniste, évoque la période 1787-1795, c'est-à-dire avant, pendant et après la Révolution française. Dans cette seconde partie, l'académicien s'appuie sur les textes de l'époque. On l'écoute.
En ce qui concerne le blé, la disette, je l'ai déjà dit, est nationale, puisqu'elle intéresse le nord et le sud. Elle est nationale, comme sera la Révolution, même d'origine, bien sûr, parisienne. Il est vrai que la récolte de 1789 sera nettement meilleure que celle de 88, et elle détendra en France la situation frumentaire dès l'automne ou la fin d'automne 89, en dépit des fameuses journées d'octobre. En Suisse, c'est l'inverse. 1788, la récolte est correcte. 1789, c'est une mauvaise récolte. Seulement, la Révolution n'a pas eu lieu en Suisse, je vous le rappelle, mais en France. Sur la base, entre mille autres facteurs, de la mauvaise récolte 88 française et non point helvétique. Vient ensuite le très rude hiver 88-89 que on connaît bien, sur lequel nos meilleurs historiens ont littéralement noirci des pages et des pages. Alors qu'en réalité, cet hiver ne le mérite pas tellement. Hiver rigoureux, certes, durée de gel des rivières de 7 semaines, fleuves et rivières gelées avec épaisseur des glaces, si bien qu'on peut faire rouler des charrettes. Communication entre Douvres et Calais interceptée par l'obstruction glaciaire des ports. Et pourtant, à l'inverse de ce qu'on dit ça et là, ce grand hiver ne joue dans les faits presque aucun rôle aggravant quant à l'essentielle crise de subsistance. Il est arrivé comme les carabiniers après coup. En fait, dès août 88, je le répète, les carottes étaient cuites. La raréfaction des subsistances était un fait incontournable. Tout au plus, le grand gel hivernal ultérieur va-t-il pendant quelques jours paralyser les moulins, et encore à Londres on faisait chauffer avec de la houille l'eau pour que les moulins tournent. Cela est mis à part, la disette de 88-89 est présentée par Bazingem non pas comme une conséquence mais comme une accompagnatrice du grand hiver. À ce fléau, dit-il, le grand hiver se joignait une cherté extrême du blé, c'est indépendant. Cherté tel que le blé coûtait 30, 32, 34 livres, blé qui était fort rare, parce que les provinces, les régions céréalières, disons, avaient été grêlées, certes, et que la récolte de l'été avait été médiocre en gerbe et en grains. Nous avons vu pourquoi, douche, sauna, etc. Par ailleurs, la grêle a attaqué 1034 ou 1039 paroisses sur 37 000. Elle n'est pourtant responsable que de 2,8% des zones détruites à demi détruite dans la récolte nationale. Elle n'est qu'un gros grêlon dans la mer, une petite partie du problème causée essentiellement par un été trop chaud et trop agité. Quant au traumatisme hivernal 88-89, son effet est nul. S'agissant de la mortalité par ce froid d'hiver, celui-ci n'a causé en Angleterre que 5400 morts supplémentaires en décembre 88 et janvier 89. C'est toujours trop, mais c'est peu par rapport aux hécatombes que nous avons mentionnées pour des famines d'autrefois. C'est peu aussi par rapport aux grandes dysenteries caniculaires nées d'été très chauds, ce qui n'est pas le cas en 88, 200 000 morts supplémentaires en 1779, et surtout l'extraordinaire chiffre de 450 000 morts supplémentaires en 1719 sur 22 millions de Français, ce qui ferait plus largement plus du million de morts aujourd'hui. Vous voyez que M. Mattei avait été enfoncé avec la canicule de 1719. Alors, ce qui est incroyable, c'est que moi, je suis historien de la Régence, j'ai beaucoup d'admiration pour la Régence, Philippe d'Orléans, Dubois, etc. Je n'ai jamais vu qu'on mentionne cet épisode dont tout le monde s'est fichu, alors que la famine, comme c'était des adultes qui mouraient, on y pensait, là, c'était des bébés, essentiellement, pas des vieillards, comme en 2003. Et ben, les curés envoyaient au paradis ces petites âmes, ils en parlaient, mais le reste... En juin-juillet 89... Bazingham va faire du tourisme en Angleterre, mais il revient assez tôt et il note les émeutes qui dégénèrent, les émeutes du printemps 89, qui dégénèrent, alors dégénèrent en action contre la dîme, contre le champard. Là, c'est le coefficient révolutionnaire qu'on n'avait pas dans les émeutes de subsistance du XVIIe siècle. Jean-Nicolas, dans son grand livre sur les révoltes, que tous les jurys de prix ont mis en échec, enfin c'est comme ça, trouve 58 émeutes de subsistance en 1788, 231 en 1789, rien que de janvier à avril. Il arrête ses comptages à partir du mois de mai, parce qu'il pense que la Révolution française est déjà là. Il y a donc un effet multiplicateur de la contestation à partir d'une cherté, fille de l'échaudage antérieur, de mauvaises récoltes, de phénomènes agressifs venus de la météo. Au fur et à mesure que la cherté devient plus sensible, de l'été 88 au début d'été 89, le nombre des agitations sociales s'accroît. 11 émeutes en janvier 89, 16 en février, 99 en mars, 105 en avril, et l'on ne perd rien pour attendre. Georges Rudet a montré le lien qui, d'amont en aval, unit ce mécontentement de nature subsistentielle en une prise de conscience révolutionnaire, vraie conscience ou fausse conscience, on ne peut pas en discuter. Mais il y a là une mécanique implacable qu'on trouvait, il me semble que la première grande émeute de subsistance un peu politisée, c'est la Grande Rebelle de 1529 à Lyon, et puis au XVIIe, XVIIIe, il y en a des quantités. Alors, problème de chronologie. Le 8 août 88, le gouvernement royal décide la convocation des États généraux pour le 1er mai 89. Or, dès le 4 août 88, les prix, en fonction de la mauvaise récolte, avaient commencé à monter à Melun, pas très loin de Paris. Une première émeute de subsistance avait eu lieu en Bretagne les 5 et 7 août 88. C'est autour de cette date que se noue la fatalité météo-frumento-révolutionnaire. Louis XVI a-t-il eu tort de convoquer si tôt les États généraux ? Aurait-il dû les convoquer pour 1790 ? On peut en discuter, il aurait été peut-être plus tranquille. Mais il est certain qu'en 1846... la mauvaise récolte due à l'échaudage également a déclenché la crise économique de 1847, qui est l'une des raisons de la révolution de février 48. Donc peut-être que le pauvre Louis XVI aurait quand même eu sa révolution. Quant à la chronologie du 14 juillet 89, elle est enveloppée par les problèmes de subsistance, étant admis qu'elle a son autonomie propre et politique. 11 juillet 89, renvoi de Necker. Le prix du froment en Île-de-France est à son maximum du XVIIIe siècle. Il avait certes beaucoup monté de 1700 à 1788, mais enfin, c'est le maximum. Et ça continue encore à monter. 12 juillet 89. Voilà le 14 juillet, si l'on peut dire, qui s'approche. Manifestation politique au Palais Royal. Ça, c'est de la politique. Contre le renvoi de Necker. Bruit de bottes militaires dans Paris, ce qui se comprend. On passe à une répression par l'armée royale. Et maintenant, le 14 juillet, alors je dis toujours, grand A, le 13 juillet. Le 13 juillet, en effet, à 1h du matin, incendie de 40 des 54 barrières d'octroi autour de Paris. Ce mur murant Paris, rend Paris murmurant. Incendie dans l'espoir de faire baisser le prix du pain, explicitement, en pensant que les octrois le faisaient renchérir, en supprimant les taxes d'octroi. Donc, 1h du matin, le 13 juillet. À 6h du matin, en ce même 13 juillet, pillage du couvent de Saint-Lazare, voyez où c'est, au nord de Paris, où l'on dit que des grains sont stockés, subsistance encore. Et puis, 8h du matin, C'est là qu'est la politisation. Puis, 17h le 13 juillet, formation d'une milice bourgeoise pour obtenir des armes. C'est donc au départ fragmentisation, subsistentialisation du conflit, puis qui se fait entre 1h du matin et 6h du matin, et puis entre 8h et 17h, politisation, militarisation, et puis 14 juillet, on n'est plus question de subsistance, c'est la prise de la Bastille par des hommes armés. Et comme l'a dit Furet, c'est déjà le début d'une révolution radicale, puisque Flesselles et Berthier de Sauvigny seront décapités, enfin, à la sortie de la Bastille. 20 juillet à Gonesse, village frumentaire près de Paris, où il y a d'excellentes brioches, le prix du pain retombe par le peuple. Il retombe un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'émeute de subsistance, pas bien méchante, qui a obligé les gens à baisser le prix de vente du blé. Il y a ainsi le lien climat-cherté, qui pousse au déficit des récoltes, cherté en fonction de la mauvaise récolte. Nous sommes dès avril 89, les greniers se vident, émeute de subsistance, pillage, formation de milices bourgeoises, phénomène de grande peur, peur des brigands, qui sont là pour réprimer le désordre, mais qui en fait déclenchent la révolution municipale par prise du pouvoir au profit de ces milices bourgeoises locales. Les voies de la révolution et de l'émeute frumentaire circulent à travers des circuits complexes. Alors, voilà donc le 88-89. Il me reste quelques minutes. Alors, on nous détaille minute par minute le comité de salut public, mais que savons-nous des récoltes de 90, 91, 92, 93? Alors, j'ai quelques données, mais nous n'avons plus les magnifiques statistiques de l'Ancien Régime, nous n'avons plus la dîme. J'ai quand même l'impression que s'il y a une année qui a des problèmes, je ne parle pas du 10 août, c'est 1792, mais je serais bien incapable de le démontrer. En revanche, 93 est une bonne année de récolte, et Robespierre a eu de la chance pour ses expériences, que vous savez. Par contre, et là je vais aller assez vite, à partir de 94-95, nous sommes sur un terrain solide, et nous avons à nouveau une grosse crise climatique. Nous avons le thermidor, la chute de Robespierre, etc. Une grosse crise climatique à peu près exactement semblable à celle de 88, c'est-à-dire pas de douche à l'automne 93, mais échaudage, enfin je redonnerai les mois, vers le peut-être mai-juin 88, et les pluies dans l'été. C'est exactement le même, et même un grand hiver, mais qui n'a pas d'importance, en 94-95. Alors, et le printemps de l'émeute, c'est-à-dire Ventose, les émeutes de Ventose, mars 95, de Germinal, mars 95, 12 Germinal, encore avril 95, Floréal, mai 95, et enfin Prairial, qui marque la défaite du peuple des sans-culottes de la capitale. Donc c'est exactement le contexte climatique elle-même, échaudage, sauna et douche, mais l'effet est exactement inverse. 88 déclenche la révolution très vite radicalisée. Prairial, printemps 95, arrête la révolution par une répression qui annonce dont on n'aura plus l'équivalent, je dis ça en tremblant, jusqu'aux journées de juin ou même à la commune, enfin avec quand même beaucoup moins de morts que dans ce cas. La crise du pain de l'année post-récolte 88-89 avait porté dans ses flancs les prodromes de la Révolution française, vice-versa les mouvements de Germinal et Prairial 95 en trois, même s'ils ont exactement ou presque les mêmes racines météorologiques, déficitaires, frumentaires, échaudage, sauna douche, etc., donnent le signal d'une réaction très rude contre le mouvement radical. La révolution n'est pas terminée, elle continue au moins jusqu'en 99 ou même au-delà, mais le processus radical sans-culottisé de la révolution se termine en... le processus robespierriste se termine en thermidor en l'été 94 et le processus radical sans-culotte se termine au printemps 95 avec la dure répression et les consolations babouvistes enfin, qui n'ont pas mené très loin à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Les moissons 94, bon, il y a thermidor, politique, c'est un autre problème, ont produit une récolte médiocre en quantité et médiocre en qualité. Toujours la chronique de Varède. La récolte de 94 s'annonçait bonne. On a fait les foires d'avril 94, la précocité. Vendange précoce, le 14 septembre. C'est l'une des vendanges les plus précoces connues entre 1782 et 1864, aussi précoce ou plus précoce qu'en 1788, 1811 et 1846, trois dates d'échaudage du blé. La récolte de 94 a souffert d'échaudage sécheresse, faible rendement. La raison, c'est l'échaudage, lui-même parfaitement compréhensible en cette année brûlante et précoce, mais un échaudage compliqué sur la fin estivale de son épisode, compliqué comme en 88, par des pluies, grêles, orages et ouragans. Va s'en suivre, en effet, après la grosse chaleur, l'épisode d'été pourri qui achève les difficultés sur un décor préexistant d'anticyclones des Açores et ensuite des fronts froids. Enfin là, il faudrait y voir plus clair. La chronique de Varède le dit en propres termes. Mauvais temps, un printemps très chaud, puis mauvais temps, c'est exactement la répétition, grosse pluie de juillet et d'août. Les blés sont germés dans l'épi, en gerbe. Échaudage, forte chaleur, qu'on trouve sur la série thermométrique de Renoux de février à juin 94. Ensuite, période pourrie, juillet août 94, quant au restant de l'été. C'est bien le complexe sauna sec printanier et puis douche estivale, peut-être sauna humide, avec les résultats antifrumentaires que l'on sait. En 1794, en outre, la désorganisation révolutionnaire de l'économie agricole et commerciale assigna réquisition de chevaux et des hommes pour la guerre, économie de guerre, blocus, plus ou moins blocus maritime par les Anglais, font que c'est beaucoup plus grave qu'en 88. En 88, l'organisme économique national est très vigoureux. Je vous ai dit, il n'y a pas un mort de la famine. Au contraire, là, c'est plus sérieux, puisque la Révolution, quels que soient ses mérites ultérieurs, je ne suis pas contre a priori, a certainement désorganisé un tas de circuits économiques, et ne parlons pas de la guerre. Et alors, pour compléter la ressemblance, comme en 88-89, c'est une coïncidence étrange, on a également un hiver sibérien en 94-95. Avec des faits bien événementiels, capture par la cavalerie française de pichegru de la flotte hollandaise bloquée par les glaces le 23 janvier 1995 au Helder. Alors, nous avons des indices hivernaux dus à Van Engelen, un météorologiste néerlandais, le maximum étant à 9 en 88-89 et je crois à 8 en 94-95. Il gèle dans les caves, le vin gèle, etc. Demi-famine, cette fois-ci une véritable petite famine qui est due à la mauvaise récolte. Alors, la chose, on a avec raison, on reproche aux thermidoriens en décembre 94 d'avoir supprimé le prix maximum du blé. Et bien que je ne sois pas gauchiste particulier, je crois qu'on a raison, car il faut bien noter qu'en 14-18 et en 39-45, quand on manquait de blé, M. Madelin aurait pu être au pouvoir, on contrôlait le prix du blé, on mettait des tickets de pain. Donc c'est une erreur absolue des thermidoriens que d'avoir supprimé le maximum, même si en fait ils ont gardé pas mal de mesures autoritaires, de recenser les sacs de blé, etc. Donc, dans le premier cas, avec un contexte climatique assez analogue, 88-89 ouvre les portes de la révolution violente, radicale, puisque Furet, je crois, insiste sur l'idée que la révolution est radicale, malgré la constituante et tout cela, dès juillet 89. Dans le second cas, les événements subsistentiels de 94-95 ferment les portes de la révolution radicale, quitte à ce que les révolutionnaires centristes, faudrait-il dire, restent au pouvoir au moins jusqu'au 18 Brumaire. Alors, il y a aussi de l'événementiel qui est intéressant, sinon amusant. Par exemple, les grosses pluies dont j'ai parlé de l'été 94 se marquent notamment par la formidable averse qui, dans la nuit du 27 au 28 juillet 94, 9 au 10 thermidors en deux dispersent la foule des sympathisants de Robespierre sur la place de l'hôtel de ville parisien et permettent ainsi aux gendarmes de Barras d'arrêter dans la mairie parisienne l'incorruptible et ses amis, tous guillotinés quelques heures plus tard. Bref, 1794 et 1788, triste les épis verts, d'abord échaudés, puis les blés moissonnés, trempés, germés, pourris. Et de même, mais avec des conséquences politiques très différentes, en 1794-95. Il faudrait parler aussi de la crise de 95 en Angleterre, qui est très intéressante, et puis étudier de la même façon, c'est ce qu'a tenté Labrousse, les révolutions de 1830 et de 1848, mais ce serait pour une autre fois.
La Révolution française et le climat, c'était le thème de l'intervention d'Emmanuel Leroy-Ladurie à la Fondation Saint-Gerre-Polignac à Paris. Pour en savoir plus sur cet académicien, vous pouvez vous connecter sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques au www.asmp.fr. Et pour approfondir le sujet, nous vous conseillons l'un des livres d'Emmanuel Leroy-Ladurie, Histoire humaine et comparée du climat, édité chez Fayard en 2004. Merci d'écouter Canal Académie. Au revoir et à bientôt.